Aristote, Traité de l'âme, livre 3, chapitre 4. Sommaire. Théorie de l'intelligence. Rapport de l'intelligence à la sensibilité. Elle est aux choses intelligibles ce que la sensibilité est aux choses sensibles. Mais l'intelligence est impassible et parfaitement distincte des choses, comme l'a dit Anaxagore. Différence de l'intelligence et de la sensibilité. La sensation, quand elle est trop violente, ne peut plus être perçue. Au contraire, plus un objet est intelligible, plus l'intelligence le comprend. L'intelligence est en puissance les objets intelligibles eux-mêmes. Explication de cette théorie. L'intelligence peut penser elle-même et comment? Paragraphe 1. Quant à cette partie de l'âme par laquelle l'âme connaît et réfléchit moralement, que cette partie soit d'ailleurs séparée ou qu'elle ne soit pas séparée en réalité et le soit seulement en raison, il faut voir ce qui la distingue des autres et rechercher comment se produit l'intelligence. Paragraphe 2. Puisque l'intelligence ressemble à la sensation, elle se réduit à éprouver une action de la part de l'objet intelligible ou à quelque autre chose d'analogue. Paragraphe 3. Il faut donc que cette partie soit impassible, mais qu'elle soit capable de recevoir la forme des objets et qu'elle soit en puissance telle que la chose, sans être la chose elle-même. En un mot, il faut que ce que la sensibilité est à l'égard des choses sensibles, l'intelligence le soit à l'égard des choses intelligibles. Il est donc nécessaire, puisqu'elle pense toutes choses, qu'elle soit distincte des choses, ainsi que le dit Anaxagore, afin qu'elle les domine, c'est-à-dire afin qu'elle les connaisse. Sa lumière intérieure, quand elle paraît, empêche de voir l'objet étranger et l'éclipse. Par conséquent, il ne peut y avoir pour elle d'autre nature que celle-là seule, à savoir d'être en puissance. Ainsi donc, ce qu'on appelle l'intelligence de l'âme, je veux dire ce par quoi l'âme raisonne et conçoit, n'est en acte aucune des choses du dehors avant de penser. Paragraphe 4. Voilà aussi pourquoi il est rationnel de croire que l'intelligence ne se mêle pas au corps, car elle prendrait alors une qualité. Elle deviendrait froide ou chaude, ou bien elle aurait quelque organe, comme en a la sensibilité. Mais maintenant elle n'a rien de pareil, et l'on a bien raison de prétendre que l'âme n'est que le lieu des formes. Encore faut-il entendre, non pas l'âme tout entière, mais simplement l'âme intelligente, et non pas les formes en toute réalité, en entéléchie, mais seulement les formes en puissance. Paragraphe 5. Du reste, on voit clairement, quand on considère les organes et la sensation, que l'impassibilité de la partie de l'âme qui sent et celle de la partie intelligente ne sont pas du tout semblables. La sensibilité, en effet, ne peut pas sentir l'objet quand la sensation qu'il produit est trop forte. Ainsi, elle ne perçoit pas le son au milieu de son violent, et quand les couleurs sont trop vives ou les odeurs trop fortes, elle ne peut ni voir ni odorer. Tout au contraire, l'intelligence, quand elle pense quelque chose de fortement intelligible, loin de penser moins bien les choses qui sont plus faibles, les pense encore mieux. C'est que la sensibilité ne peut s'exercer sans le corps et que l'intelligence en est séparée. Paragraphe 6. Mais lorsqu'elle pense, elle devient les choses qu'elle pense, en ce sens où l'on dit d'un homme qu'il est savant, parce qu'en effet, il est savant en acte. Et c'est ce qui a lieu du moment que l'intelligence peut agir par elle-même. Elle n'en est pas moins alors également en puissance de certaines façons, mais elle n'est pas tout à fait comme elle était avant qu'elle eût appris ou découvert la chose. Car alors, elle peut aller jusqu'à se penser elle-même. Paragraphe 7. Mais on peut remarquer qu'être une grandeur et être la grandeur sont des expressions fort différentes, ainsi qu'être de l'eau et être l'eau le sont aussi. Il en est de même dans bien d'autres cas encore, mais non pas pourtant dans tous sans exception. Et ainsi, quelquefois, ce sont des expressions identiques que être la chair et être de la chair. Ces nuances sont-elles distinguées par une faculté différente dans l'âme, ou du moins par l'âme autrement disposée? C'est qu'en effet, cette chair ne peut pas exister sans la matière. Et c'est comme le Camus qui est telle chose dans telle autre chose. Or, c'est par la sensibilité que nous distinguons le froid et le chaud, et les éléments qui servent de quelque façon à composer ce qu'on appelle la chair. Mais c'est certainement par une autre faculté qui est séparée, ou qui du moins devient à elle-même ce que la ligne brisée est à elle-même aussi quand on la redresse, que nous jugeons ce que signifie être la chair. Paragraphe 8. En outre, dans les études abstraites, on considère la ligne droite absolument comme nous considérions tout à l'heure le Camus. On ne la conçoit qu'avec la continuité matérielle d'un corps. Mais quant à l'essence, s'il y a bien une différence entre ces deux expressions « être droit » et « être le droit », c'est certainement par une autre faculté que nous jugeons et admettons cette dualité. L'esprit distingue cette différence par une autre faculté, ou du moins parce qu'il est autrement affecté. En général, de même que sont les choses de la matière quand elles en sont séparées, de même aussi sont les choses propres de l'intelligence. Paragraphe 9. On pourrait demander, en supposant que l'intelligence soit parfaitement simple, impassible, et n'est rien de commun avec quoi que ce soit, ainsi que le veut Anaxagore, comment elle peut penser, si penser, c'est éprouver et souffrir quelque chose. Car c'est seulement en tant qu'il y a quelque chose de commun entre deux termes que l'un paraît agir et l'autre souffrir. Paragraphe 10. On pourra se faire encore une pareille question si l'intelligence elle-même est intelligible, car ou bien l'intelligence se retrouve dans les autres choses, si elle-même n'est pas intelligible, d'une autre manière qu'elle, et que l'objet intelligible soit quelque chose de spécifiquement un. Ou bien, l'intelligence aura quelque chose de mélangé qui la rendra intelligible elle-même, comme tout le reste des choses. Paragraphe 11. Mais souffrir, selon quelques rapports communs, s'explique par la distinction faite plus haut, que l'intelligence est en puissance comme les choses mêmes qu'elle pense, sans en être aucune en réalité, en entéléchie, avant que de les penser. Évidemment, il en est ici comme d'un feuillet où il n'y a rien d'écrit en réalité, en entéléchie. Et c'est là le cas même de l'intelligence. Paragraphe 12. De plus, elle est elle-même intelligible, comme le sont toutes les choses intelligibles. Pour les choses sans matière, l'être qui pense et l'objet qui est pensé se confondent et sont identiques. Ainsi, la science spéculative et l'objet su de cette façon sont un seul et même objet. Resterait à rechercher, il est vrai, pourquoi l'intelligence ne pense pas toujours. Mais c'est dans les choses matérielles que sont en puissance toutes les choses intelligibles. Par conséquent, l'intelligence ne sera pas dans les choses matérielles, puisque l'intelligence est précisément la puissance sans matière de ces choses mêmes. Mais c'est dans l'intelligence que sera réellement l'objet intelligible. Chapitre 5. Sommaire. Il y a dans l'intelligence deux parties qui répondent à la matière et à la cause. L'intelligence est impassible et immortelle, l'intelligence passive et périssable, et ne peut rien penser sans l'intelligence active. Paragraphe 1. De même que dans toute la nature, il faut distinguer d'une part la matière pour chaque genre d'objet, la matière étant ce qui est tous ces objets en puissance, et d'autre part la cause, et ce qui fait, parce que c'est la cause qui fait tout, comme l'art fait tout ce qu'il veut de la matière. De même, il faut nécessairement aussi que ces différences se retrouvent dans l'âme. Telle est en effet l'intelligence qui, d'une part, peut devenir toute chose et qui, d'autre part, peut tout faire. C'est en quelque sorte une virtualité pareille à la lumière, car la lumière, en un certain sens, fait des couleurs qui ne sont qu'en puissance, des couleurs en réalité. Et telle est l'intelligence qui est séparée, impassible, sans mélange avec quoi que ce soit, et qui, par son essence, est en acte. Paragraphe 2. C'est que, toujours, ce qui agit est supérieur à ce qui souffre l'action, et que le principe est supérieur à la matière. La science en acte se confond avec l'objet auquel elle s'applique. Mais la science en puissance est pour l'individu seul antérieure dans le temps. Absolument parlant, elle n'est point antérieure dans le temps. Mais ce n'est point lorsque tantôt elle pense et tantôt ne pense pas, c'est seulement quand elle est séparée que l'intelligence est vraiment ce qu'elle est. Et cette intelligence seule est immortelle et éternelle. Du reste, cette partie de l'intelligence ne nous donne pas la mémoire, parce qu'elle est impassible. L'intelligence passive, au contraire, est périssable, et, sans le secours de l'intelligence active, l'intelligence passive ne peut rien penser. Chapitre 6. Sommaire. L'intelligence est de sa nature propre, infaillible, tant qu'elle ne s'applique qu'aux individus. L'erreur ne vient jamais que des combinaisons de la pensée. L'intelligence, dont la fonction est de prononcer sur les sens et non sur les accidents des choses, ne peut point se tromper. Paragraphe 1. Ainsi donc, l'intelligence, quand elle ne s'applique qu'aux individus, ne peut commettre d'erreur. Car, dans le cas où il y a erreur et vérité, c'est qu'il y a déjà comme une combinaison de pensées réduite à une sorte d'unité. Cela rappelle ce qu'Empédocle disait. C'est ainsi que, pour beaucoup d'êtres, des têtes vinrent à pousser sans col, et que plus tard, les coups et les têtes se combinèrent par la puissance de l'amour. De même aussi, les pensées, toutes séparées qu'elles sont les unes des autres, sont combinées par l'intelligence, par exemple celle de l'incommensurable avec celle du diamètre. Paragraphe 2. S'il s'agit de choses qui ont été ou qui doivent être, l'intelligence y suppute en outre le temps et les combine. C'est que l'erreur, ici non plus, ne se trouve jamais que dans la combinaison. En effet, quand on suppose que le blanc n'est pas blanc, c'est par une combinaison qu'on affirme qu'il n'est pas blanc. Mais on peut dire aussi toute chose par division. Quoi qu'il en soit, il peut non seulement être vrai ou faux que Cléon est blanc naturellement, mais encore qu'il l'a été ou le sera. Ce qui fait que tous ces éléments deviennent une unité, c'est l'intelligence qui combine ainsi chaque chose. Paragraphe 3. Mais, comme indivisible a deux sens, indivisible en puissance et indivisible en acte, rien n'empêche l'intelligence, quand elle pense l'étendue, de la penser indivisible, puisque l'étendue est indivisible en acte, et aussi de la penser dans un temps indivisible, puisque le temps est divisible et indivisible comme l'étendue. On ne peut donc pas dire que l'intelligence pense quelque chose dans chaque moitié, car l'étendue, tant qu'elle n'est pas divisée, n'est qu'en puissance. Mais, en pensant à part chacune des moitiés, l'intelligence divise aussi le temps du même coup. Le temps est alors comme les deux étendues diverses, et si l'intelligence fait une sorte de tout composé des deux moitiés, il en est aussi de même pour le temps qu'elle applique aux deux. Paragraphe 4. Mais ce n'est pas l'indivisible en quantité, c'est seulement l'indivisible en espèce que pense l'intelligence dans un temps indivisible et par la partie indivisible de l'âme. Et ce n'est pas accidentellement et en tant que l'objet qu'elle pense est divisible comme le temps où elle le pense. C'est seulement en tant qu'ils sont indivisibles. C'est qu'il y a en effet, même dans ces cas, quelque chose d'indivisible, mais non pas séparé peut-être, qui donne l'unité au temps ainsi qu'à l'étendue. Et cela est également vrai pour tout continu quelconque, soit temps, soit étendu. Paragraphe 5. Mais le point où toute division analogue et tout ce qui est indivisible en ce sens sont toujours exprimés comme la privation de quelque chose. Le raisonnement d'ailleurs est le même pour tout le reste, et l'on peut demander par exemple comment l'intelligence connaît le mal ou le noir. Elle les connaît en quelque sorte par leur contraire. Paragraphe 6. De plus, il faut que ce qui connaît soit en puissance la chose connue, et que l'un des contraires soit en lui. Mais s'il y a quelqu'une des causes qui n'ait plus besoin de contraire, cette cause se connaît elle-même, elle est en acte et séparée. Paragraphe 7. L'assertion qui énonce une chose d'une autre chose, de même que l'affirmation, est toujours vraie ou fausse. Mais l'intelligence n'est pas toujours vraie, elle est vraie quand elle juge ce qu'est la chose d'après l'essence même de la chose. Elle peut ne pas l'être quand elle attribue telle chose à telle autre chose, mais de même qu'il est toujours vrai qu'on voit la chose propre de la vue, et que c'est seulement quand on ajoute que cette chose blanche est ou n'est pas un homme, qu'on peut n'être pas toujours dans le vrai. De même, on voit toujours ainsi la vérité pour toutes les choses qui sont sans matière. Chapitre 7. Sommaire. Dans l'intelligence, l'acte précède la puissance. L'intelligence, en recherchant ou en fuyant les choses, les affirme ou les nie, comme la sensation et comme la parole. Pour elle, les images sont ce que les sensations sont à la sensibilité. Pour elle, le vrai et le faux sont le bien et le mal. De la faculté d'abstraire que possède l'intelligence, manière dont elle s'exerce dans les mathématiques. Paragraphe 1. La science en acte est identique à la chose qui est sue. Mais la science qui n'est qu'en puissance est antérieure dans le temps pour un seul et même individu. Absolument parlant, elle n'est point antérieure chronologiquement, car tout ce qui se produit vient toujours d'un être qui existe en toute réalité, en entéléchie. Or, l'objet sensible paraît mettre en acte la sensibilité qui n'est d'abord qu'en puissance. Elle ne souffre rien et n'est point altérée. Et voilà pourquoi c'est ici une autre espèce de mouvement. Car le mouvement est, avons-nous dit, l'acte de l'incomplet. Mais l'acte pris absolument est tout différent. C'est l'acte de ce qui est accompli. Paragraphe 2. Ainsi donc, sentir les choses ressemble à les dire ou les penser simplement. Mais quand la chose est agréable ou pénible, c'est une sorte d'affirmation ou de négation que fait l'âme en la poursuivant ou en la fuyant. Et avoir du plaisir ou de la douleur, c'est, pour la moyenne sensible, agir à l'égard du bien ou du mal, en tant que les choses sont l'un ou l'autre. La haine en acte pour l'un et le désir en acte pour l'autre ne sont que la douleur et le plaisir. Le principe qui, dans l'âme, désire et celui qui est ne sont pas différents entre eux, pas plus qu'ils ne le sont du principe qui sent. La façon d'être est seule diverse. Paragraphe 3. Quant à l'âme intelligente, les images remplissent pour elle le rôle des sensations. Dès qu'elle affirme ou qu'elle nie que la chose est bien ou mal, elle la recherche ou la fuit. Voilà pourquoi cette âme ne pense jamais sans image. Et c'est ainsi que l'air modifie la pupille de telle ou telle façon, et que la pupille modifie autre chose. De même que c'est ainsi encore que les choses se passent pour Louis. Mais le terme dernier est un, c'est une moyenne unique qui seulement peut avoir plusieurs façons d'être. Paragraphe 4. On a déjà dit plus haut comment l'âme distingue la différence du doux et du chaud. Il faut encore l'expliquer ici. Elle est quelque chose d'un par elle-même, et elle l'est aussi en tant que limite. De part et d'autre, c'est la même chose, par la proportion et par le rapport numérique, que l'âme et la limite soutiennent l'un avec l'autre terme. L'intelligence est aux images tout à fait ce que le sens commun est aux sensations diverses qu'il réunit. Où est d'ailleurs la différence de rechercher comment l'âme distingue les choses qui sont dans un même genre ou qui sont contraires, telles que le blanc et le noir. Soit en effet A, le blanc, en rapport avec B, le noir, et que C soit à D, comme l'un et l'autre sont entre eux. Ainsi, il y a ici réciprocité. Si C, D sont à un seul objet, ils y seront tout comme ils sont A, B. C'est une même et seule chose, bien que la façon d'être ne soit pas identique. Et de même aussi, dans ce cas, le raisonnement ne change point si A est le doux et que B soit le blanc. Paragraphe 5. Ainsi donc, l'âme intelligente pense les formes dans les images qu'elle perçoit. Et c'est en quelque sorte en elle que se détermine, pour l'âme, ce qu'il faut rechercher ou fuir. Ce n'est pas de la sensation que lui vient le mouvement, alors qu'elle s'applique aux images. Comme par exemple quand, sentant que le flambeau est en feu et voyant par le sens qui est commun que le flambeau est en mouvement, l'âme comprend qu'il y a danger. Paragraphe 6. Parfois aussi, d'après les images et les pensées qui sont dans l'âme, l'intelligence calcule et dispose l'avenir par rapport au présent, tout comme si elle voyait les choses. En outre, quand elle se dit que la chose actuelle est agréable ou pénible, elle la fuit ou la recherche actuellement, et d'une manière générale, elle se met en action. Et pour parler de choses où il n'y a plus d'action, le vrai et le faux sont dans le même genre que le bien et le mal. Mais il y a cette différence que le vrai et le faux sont absolus et que le bien et le mal sont relatifs. Paragraphe 7. Quant aux choses dites abstraites, l'intelligence les pense de la même manière qu'elle pense le Camus. En tant que Camus, elle ne le pense pas séparément du nez. Mais en tant que courbe, si elle le pense en acte, elle peut le penser indépendamment de la chair dans laquelle elle est cette courbure. C'est ainsi qu'elle pense, comme séparée des corps, les êtres mathématiques qui ne le sont pas cependant lorsqu'elle les pense. Paragraphe 8. En résumé, l'intelligence en acte est les choses quand elle les pense. Nous verrons plus tard s'il est ou non possible que sans être elle-même séparée de l'étendue, elle pense quelque chose qui en soit séparée.